Bonjour à tous et bienvenue sur Chalalove, le podcast qui décortique l'amour avec un grand A. Durant une trentaine de minutes, un couple qui nous ressemble nous dévoile au travers de ses petits secrets, conseils, erreurs ou traits d'audace, ce qui fait que l'on tombe amoureux ou que l'on reste ensemble pour toute la vie. Si le podcast vous plaît d'ailleurs, pensez à vous abonner sur iTunes pour ne rater aucun épisode et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un petit mot doux ou même une note 5 étoiles sur l'application iTunes, ça nous aide énormément à donner de la visibilité à Chalalove et aussi à diffuser tout cet amour autour de nous. Aussi, si vous souhaitez en savoir plus sur nos invités, vous pourrez retrouver leurs contacts et notre univers en allant simplement sur le site de Gémio, www.gemio.com. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Maëlys et Michael. Il y a quelques semaines, lorsque nous cherchions nos prochains invités pour Chalalove, Maëlys nous a contactés pour parler de son histoire et on a tout de suite complètement adhéré. Je vous lis ces mots. Nous n'entretenons pas une relation, mais des relations. Celle d'un homme et d'une femme, issus de générations et de mondes différents, et surtout d'un entraîneur et de son athlète. Nos activités, professionnelles pour Michael, sportives pour moi, créent des occasions où peuvent parfois s'insérer les sentiments, alors qu'il faut faire la part des choses et rester à sa place. Toutefois, c'est aussi une façon d'être ensemble, sans l'être vraiment. Et ça, c'est génial. Vous l'aurez compris, lorsque nous avons reçu ça, on était assez surexcités. Et au-delà de leur rencontre, nos deux amoureux nous ont confié tout le particularisme d'une telle relation, et notamment la barrière que Michael, l'entraîneur de Maëlys en athlétisme, a voulu conserver entre eux, malgré une évidente attirance, l'exemplarité dont ils ont dû faire preuve vis-à-vis du monde extérieur, la difficulté de couper complètement entre la relation d'entraîneur-athlète et celle d'amoureux, le respect inégalable de Maëlys pour la passion de Michael et les contraintes que lui apporte son métier. Au final, Michael et Maëlys auront dû garder leur relation entièrement cachée, entièrement secrète, et tout ce que cela comporte pendant environ 2 années, avant de l'officialiser enfin par une demande en mariage faite en public. Une leçon de patience qui force le respect. Je suis Pauline Léniaud, et ce podcast vous est proposé par la maison de joaillerie Gémio. Salut Maëlys et salut Michael, on est ravis de vous avoir sur le podcast, bienvenue.
Bonjour Pauline et merci.
Bonjour Pauline et merci.
Vous le savez, Chalalove c'est un podcast sur l'amour, sur les couples, sur les relations et donc on va parler de la vôtre qui est hyper intéressante en plus, donc j'ai plein de questions. Avant ça, la première qui est la plus évidente, c'est tout simplement de vous demander comment vous êtes rencontrés. Et je crois savoir que ça a été un peu un jeu de hasard. Est-ce que tu peux nous raconter ça Maëlys?
Oui. Alors, je redoublais mon année de droit et j'avais pas trop de cours. Donc, je me suis dit, tiens, je pense que je vais aller m'investir dans un sport. D'accord. Donc, j'ai fait les forums des associations de ma ville et j'ai un peu cherché au hasard. J'ai vu, oh, il y a un club d'athlét. Quand j'étais petite, on me disait que je courais bien. Et que, est-ce que tu fais de l'athlétisme? Non. Donc, je suis rentrée chez moi, j'ai cherché sur Wikipédia ce qu'il y avait comme discipline dans l'athlétisme, sachant que j'y connaissais rien. Et puis, je me suis dit, oh, en plus, je suis asthmatique et tout ça, j'ai pas envie de me fatiguer trop longtemps, je vais prendre du sprint.
C'est bien, là, je vois Michael qui rit.
Et donc, je vais au club d'athlétisme de la ville, je vais une première fois, je dis que je veux m'inscrire, il n'y a pas d'entraîneur. On me dit de revenir, donc je reviens. On me présente quelqu'un, mais bon, il sait pas trop. Et puis on me dit, ah, mais il y a aussi Michael, mais bon, Michael n'est pas là. Hein, je crois que c'est ça.
J'étais en road trip en Autriche.
D'accord.
Du coup, je me dis, bon, j'y vais une dernière fois et s'il n'est pas là, bah tant pis, je passerai à autre chose. Et heureusement, j'y vais et puis je tombe sur Michael, entraîneur de sprint, mais qui n'a pas du tout... l'apparence d'un entraîneur, c'est-à-dire qu'il est habillé en bermuda, en mocassin, en chemise et pas du tout avec un jogging comme
D'accord.
j'imaginais.
Donc beaucoup plus classe. Petit coup de foot du coup de ton côté, enfin en tout cas intérêt.
Je l'ai vu et je me suis dit ça existe les hommes comme ça.
Ah ouais, quand même.
C'est ce que je
quand
me même. Suis dit.
Et donc tu commences à t'entraîner avec lui.
Voilà.
Ok.
Je me dis bon c'est quand même un très bel homme mais. C'est mon entraîneur, donc...
Restons professionnels.
Voilà, c'est ce que je me dis.
Et toi, Michael, le jour où vous êtes rencontrés
Alors moi,
tu t'en rappelles?
Oui, je m'en rappelle très très bien, mais j'ai pas du tout la même vision de Maëlys, puisque moi, quand je l'ai vue, je me suis dit, tant mieux, c'est une athlète. Et puis, elle va venir dans le groupe. Et puis, elle avait l'air... en tout cas, elle voulait s'investir. On sentait qu'elle voulait s'investir. Et puis, elle n'avait jamais fait de sport. Donc, on a commencé. J'ai commencé plutôt par la tester. Et puis, elle était quand même assez régulière. assez sérieuse. Mais voilà, il n'y a pas de...
Il n'y a pas eu de coup de foudre direct.
Non, non, mais en tout cas, moi, je ne voyais pas du tout ni l'intérêt, ni oui. De, je veux dire...
Ça, oui, c'était une
moi, j'ai toujours mis en fait
une barrière.
Une barrière d'entraîneur. Mm. Et donc, je suis quand même assez... En tout cas, dans le milieu, je suis quand même assez reconnu pour être justement assez professionnel et assez, assez rigoureux. Donc...
Bon, bah alors justement, voilà. Tu voulais pas forcément dépasser cette barrière, je
ah,
peux
non,
penser.
Non, non, non,
alors
non,
qu'est-ce qui se passe ? Parce que donc toi, Maëlys, tu craques un peu quand même, il faut le dire. Vous vous entraînez, vous voyez tout le temps en plus, je peux imaginer.
Ouais, on s'entraîne 4 fois par semaine.
Ouais.
Donc
ça
ouais,
crée des liens.
Ouais, ça crée des liens aussi. Et ce que Mickaël fait en tant qu'entraîneur, c'est organiser aussi des sorties.
D'accord.
Avec les athlètes pour nouer des liens entre athlètes et aussi
du
coup avec l'entraîneur. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a à peu près 4 mois après mon inscription, on fait un dîner avec tout le monde et je redécouvre Mickaël, magnifique. Et oui, ça m'a. Et c'est à ce moment-là, je crois que je me suis dit, oh, je crois que je vais quand même tenter quelque chose.
D'accord.
Il dégage vraiment quelque chose qui m'a tout de suite. Enfin, j'avais envie d'y aller, quoi.
Voilà. Et alors, qu'est-ce que t'as fait ?
Alors, j'ai discuté avec lui. Mm. J'ai essayé de parler d'autres sujets que le sport ou autre. Et puis, il a commencé à me ramener chez moi à la fin des entraînements. Et du coup, c'était l'occasion pour moi d'aborder des sujets et de voir quels étaient ses intérêts et autres. Et puis, on a eu des discussions assez profondes. On a discuté de livres, de spiritualité. Et là, je me suis dit, ah tiens, c'est la première fois que je discute de ça avec quelqu'un.
Mmh.
Et puis voilà, ouais, c'est ça.
Et toi, Mickaël, alors à ce moment-là, tu avais quand même ce problème, entre guillemets, si je puis dire, de ne pas vouloir forcément avoir une relation avec...
Mais moi, en fait, j'avais aucun problème.
Ah bon ? Ah bah très bien.
Non, mais moi, quand je dis j'avais aucun problème, c'est que j'avais aucune attirance. Il n'y avait pas du tout d'attirance, il n'y avait pas de...
C'est clair, au moins.
Je veux dire, j'avais pas de ressenti. Mm. Je la trouvais vraiment très intéressante. Je me rappelle la première fois, on s'était rencontrés par hasard dans les transports et en fait, j'avais donné rendez-vous aux athlètes dans un grand parc. Mmh. Et puis, bah, on avait commencé à discuter du Japon parce que j'adore l'Asie. Et puis, après, ça a bifurqué sur des livres, sur un petit peu de spiritualité. Mmh. Et puis voilà, ça...
Mais voilà, il ne se passait rien dans ta tête à ce moment-là
sur le thème
des sentiments. Mais comment est-ce que tu arrives à casser cette barrière psychologique ?
En fait, déjà, moi, je me faisais énormément de films sur chaque chose qu'il me disait.
Ah.
J'imaginais qu'en fait, je lui plaisais, mais il n'osait pas trop.
D'accord.
Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai aussi forcé, Et puis, vu qu'on discutait pas mal, il m'a dit « Ah bah tiens, on pourrait se faire une exposition ou un truc, vu qu'on s'intéresse un peu aux mêmes choses.
Ouais. »
Et du coup, c'était l'occasion pour moi qu'on se retrouve enfin tous les deux et que je puisse tenter un vrai rapprochement. Et au final, j'ai pas vraiment fait quoi que ce soit. Tu vois, je suis plutôt restée naturelle.
Balance tout.
On y va. On
non,
est sur
non,
Chanel.
Non,
Love,
on est allé dans un concert de musique classique. On s'est baladé dans Paris. On a vraiment juste discuté. Et puis, j'étais plutôt naturelle. Bon, j'ai un peu tenté de te chauffer un petit peu, c'était très maladroit parce que je savais vraiment pas comment séduire un homme, surtout qu'en plus il est plus âgé que moi, donc c'est pas pareil qu'un jeune de 20 ans. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en restant du coup naturel, on a passé un très très bon moment. Et Mickaël l'a ressenti. Donc avant ça, il n'y avait rien, mais il s'est dit « Ah bah tiens, j'ai passé un bon moment avec elle ». Et du coup, tout de suite, il m'a reproposé une autre sortie, puis une autre.
Je peux intervenir ?
Bah, avec plaisir. je n'attendais que ça, Mickaël.
Alors, donc moi, en fait, surtout, il n'y a pas eu vraiment de... Il n'y a pas eu vraiment de déclic, mais j'étais parti... donc, c'est la première fois, je partais tout seul en Lituanie.
Mm-hmm.
En fait, c'est mon retour... En fait, on avait essayé de se voir à plusieurs reprises. En fait, il y avait une exposition qui était au Quai Branly qui m'intéressait fortement. J'aurais voulu qu'on aille la voir tous les deux, c'est ça ? Parce qu'en fait, on s'est intéressé surtout à la culture afro-américaine, mais surtout à l'esclavage.
D'accord.
Et puis, bon, en fait, ça n'a jamais pu se faire, puisque bon, moi, j'étais pas mal occupé. Et puis, bon, je veux dire, il n'y avait pas d'importance, il n'y avait pas d'urgence ni de la voir ou de la rencontrer. Et donc, en fait, après la Lituanie, je me suis dit, bon, ouais, je vais faire un effort. Bon, allez, on va se voir. Et puis, il s'avère que dans mon entourage, ou même dans les rencontres que j'ai pu faire, j'ai rarement rencontré des personnes déjà qui aiment la musique classique. Alors, c'est très, très cliché, mais bon, moi, j'ai grandi dans la culture hip-hop. Et donc, je suis très hip-hop. C'est dans mon ADN, mais j'adore aussi la musique classique. Et donc justement que Maëlys aussi adore la musique classique, et ben je dis ben tiens donc musique classique, ben,
vous avez les mêmes centres d'intérêt.
Ouais, on va, je dirais, on va y aller. Donc j'ai trouvé un concert de musique classique, c'était du côté des Champs-Élysées.
Ok.
Ouais, à l'église américaine.
Voilà, à l'église américaine. Sympa. Donc super sympa, très bon moment. On a été manger une glace. On s'est promené, donc moi j'aime bien prendre des photos, donc je m'arrêtais toutes les 5 minutes pour prendre des photos.
Mais à ce moment-là, il se passe rien dans ta tête, tu te dis toujours pas du tout que
non, pas du tout. Non, mais en plus j'étais avec quelqu'un.
Ah, ça tu nous l'avais pas dit.
Ouais. Voilà. Non, mais c'est vrai. Non, mais j'étais avec quelqu'un, donc moi dans ma tête, il y avait, il y avait pas de.
Il y avait pas de sujet.
Ah non, il y avait pas du tout de. Voilà, c'était. Mais... On passe. On,
alors bon, on passe. Que, qu'est-ce qui se passe? Comment le sujet est mis sur la table?
Alors.
Là, vous nous faites languir là.
Alors, ce qui a fait basculer les choses, en tout cas de mon côté, ce qui a fait basculer les choses, c'est pas normal que je passe un aussi bon moment avec une athlète. Et pourquoi je passe un aussi bon moment alors que je suis déjà avec quelqu'un?
Ouais.
Et bon, la personne avec qui j'étais, c'était... voilà, il n'y avait pas de... Il n'y avait rien du tout. Et donc, voilà, j'ai continué ma route, on s'est vu. Après, je crois qu'on s'est vu peut-être une semaine après, quelque chose comme ça. Et entre-temps, je me suis dit, bon, c'est pas possible que je puisse autant apprécier un tel moment et être avec quelqu'un.
D'accord.
Parce que moi, je suis quelqu'un d'entier, donc je ne peux pas aller à droite, à gauche. Soit c'est tout, soit c'est rien du tout, tout simplement. Et donc, j'ai décidé de mettre fin à ma relation. Mais pas parce que je développais quelque chose. C'était parce que je me disais que non, en fait, cette personne-là ne m'intéresse pas.
Ah oui, ça t'a fait poser des questions. Quoi.
Exactement, ça m'a fait plus me faire remettre en question sur l'investissement que j'avais justement dans cette relation-là. Plus que me dire, ouais, Maëlys, ça me plaît ou elle ne me plaît pas. Voilà.
D'accord. Et donc, comment vous sautez le pas?
Michael m'invite justement pour un petit déjeuner chez lui. Et j'accepte. Et puis, c'est là qu'on se rapproche. Voilà.
Très bien. Très bien.
On peut dire ça.
C'était il y a 2 ans, c'est ça?
Oui.
Ouais.
Super.
C'est ça.
Et alors, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est vous vous mettez ensemble et vous êtes encore dans cette relation en plus d'entraîneur et d'athlète.
Oui.
Est-ce qu'à un moment donné, notamment pour toi, Michael, tu te dis « Oulala, il faut qu'on arrête de collaborer au niveau professionnel, entre guillemets, parce que c'est compliqué, peut-être que la relation va être… Comment est-ce que ça se passe et est-ce que vous en discutez? Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu justement de ce qui se passe au moment où vous mettez ensemble par rapport à votre relation professionnelle, entre guillemets?
Alors, donc, vu que Maëlys ne vient pas du tout du monde du sport, donc je pense qu'elle n'a pas… Peut-être qu'elle n'a pas capté le… tout ce que ça pouvait en fait tout ce que ça pouvait engendrer. Donc j'essaye de récapituler, c'est-à-dire que bon, j'interviens à l'INSEP, je fais partie de l'équipe régionale, donc j'ai des responsabilités, je travaille dans un comité d'athlétisme, j'interviens au rugby, j'interviens au MMA, j'interviens dans le monde du hand.
Oui, tu peux pas faire n'importe quoi.
Je peux pas faire n'importe quoi et j'ai des aspirations aussi d'équipe de France.
Ouais.
Et on m'avait déjà proposé des grosses choses, donc je me dis là en fait qu'est-ce qui se passe parce que bon, il y avait des fois des rumeurs sur certains entraîneurs qui profitaient de la situation. Et moi, justement, je suis complètement l'opposé de ça. Mais là, en fait, il y a quelque chose qui m'arrive. Et comment je vais faire pour gérer cette relation? Déjà, est-ce que c'est une relation sérieuse ou pas? Qu'est-ce qui va se passer pour moi? Je veux dire, si on le découvre, est-ce que ma carrière, ça va se terminer? Est-ce que je vais avoir une réputation? Donc, je me posais pas mal de questions. Donc, dans un premier temps, j'ai essayé de, de voir si c'était vraiment sérieux. En tout cas, si c'était vraiment sérieux et si vraiment il y avait un véritable attrait.
Et donc c'était votre relation était entre guillemets cachée à ce moment-là, je peux
imaginer. Totalement. Ouais, on était obligés.
Ouais. Ah oui. Ouais,
complètement obligés, donc ça veut dire qu'elle était toujours dans le groupe d'entraînement. Mais par contre, tout de suite, dès qu'on arrivait sur le stade, il y avait une barrière. Et même en dehors du stade, il y avait une barrière, puisqu'on habite, quasiment, en tout cas, à l'époque, on habitait quasiment à côté.
D'accord.
Et donc, on est obligé de se cacher, parce que tous les gens me connaissent.
Oui.
Et on ne pouvait pas faire un pas sans rencontrer des gens. Donc,
rencontrer des athlètes.
Voilà,
vous deviez être parfois terrorisé de rencontrer des gens dans la rue.
Alors,
ou quelque chose comme ça.
Pas Maëlys. Dire la vérité. Est-ce que je me trompe ? Dis-moi. Est-ce que je me trompe ?
Sur le moment quand ça arrivait, oui, mais sinon, non.
Voilà. Donc, moi, par contre, oui, parce que j'ai
Bah, toi, t'avais plus à perdre aussi.
Bah, j'avais plus à perdre, mais surtout, j'ai toujours eu des valeurs que je respecte énormément, et surtout dans le monde du sport, et je pense avoir une certaine éthique, en tout cas, je n'aurais pas pu supporter d'avoir une autre image que cette image rigoureuse que je transmettais, et puis cette image de personne sérieuse avec des valeurs, et ça m'aurait en tout cas vraiment dérangé que j'ai une autre image que celle-là. Voilà.
Bien sûr. Donc vous viviez un peu caché la relation pendant un moment, mais au moins vous vous rendez compte que ça devient sérieux. Et donc je peux imaginer qu'à un moment donné vous vous dites que c'est tellement sérieux qu'il va falloir quand même le dire au monde. Est-ce que vous en avez discuté? Comment ça s'est passé? Le fait de se dire, bon, il y a un moment, est-ce que vous avez attendu les fiançailles? Enfin, est-ce que vous pouvez m'expliquer, en gros, jusqu'à où vous avez caché, entre guillemets, la relation avant de commencer à pouvoir l'assumer?
Alors, effectivement, du coup, c'est resté caché jusqu'à la demande en mariage qui était
Donc, hyper tard.
Donc, presque 2 ans, hein, quasiment hein, caché.
D'accord. Et au niveau, moi, une question qui m'intéresse, c'est au niveau de votre relation entraîneur et athlète, vous arriviez à collaborer ensemble? Enfin, je peux imaginer que c'est pas si facile quand même, parce que personne ne sait que vous êtes ensemble, les gens savent que vous aimez bien et que vous êtes amis, mais bon, ils savent pas quand même quelle relation vous avez. Et puis ce côté, toi, je peux penser, Mickaël, d'être très rigoureux, devoir dire bah non, là ça va pas, etc. Peut-être même plus dur, je m'en rends pas compte. Puis toi, Maëlys, dire oh là là, il faut tellement être exemplaire. Enfin, je travaille avec mon mari, donc je sais un peu ce que c'est. Mais est-ce que vous pouvez me parler de la difficulté entre guillemets de collaborer, d'autant plus que c'était caché, donc je peux penser que ça devait être encore moins simple que quand c'est une relation qui est ouverte au public, quoi.
Alors, tu veux qu'on commence par qui?
Bah écoute, Mickaël, t'as l'air d'avoir plein de choses à me dire.
Moi, j'avoue que déjà situation nouvelle pour moi.
Tu te dis tout de suite, il faut que je mette des cadres dans l'entraînement.
Pour moi, les choses étaient très claires. C'est-à-dire que en dehors de l'entraînement, ce qui limite, les choses, c'est-à-dire nous, mais quand on va surtout sur Paris, on va dire on peut entre guillemets se lâcher, parce que même dans les transports, on reste distant. Mais quand on arrive sur le stade, t'es une athlète. Et je suis ton entraîneur. Pour moi, les choses étaient claires, très claires. Mais je pense que la difficulté était plus pour Maëlys, parce que, comme je disais tout à l'heure, elle ne vient pas du tout du monde du sport. C'est là aussi la première fois qu'elle vivait ça. Je veux dire, situation inédite. Moi, je pense que j'ai un peu plus d'expérience, même si je n'ai pas vécu ça, mais j'ai quand même un petit peu plus d'expérience et j'arrive véritablement à faire la part des choses.
Ouais.
Mais c'est vrai que quand il y a des sentiments en jeu, tout de suite, ça crée tout de suite des difficultés. Et je pense qu'à un moment, il y a peut-être certains athlètes qui ont dû ressentir que peut-être qu'il y avait plus qu'une relation. Alors, il y a des athlètes vraiment avec qui je suis proche.
Et même eux, tu leur disais pas? Personne n'est rentré dans le secret?
Non, personne.
Et toi, Maëlys, alors raconte-moi justement tes sentiments, tes émotions. Comment est-ce que tu as pu gérer ce côté tout d'un coup très distant d'avoir l'athlète et le coach, où c'est une relation presque hiérarchique ou contractuelle, ou en tout cas professionnelle? Comment est-ce que tu arrivais à passer de l'un à l'autre et quels étaient tes sentiments à l'époque?
Alors, heureusement que Mickaël me rappelait un peu à l'ordre, parce que du coup, vu que j'étais pas à sa place et je ne faisais pas non plus l'effort de me mettre à sa place, surtout au début, c'est vrai que je me lynchais un peu et je faisais pas forcément attention. au niveau des gestes et tout ça. Et par rapport à la situation de l'entraînement, je me permettais certaines choses. Donc, quand Mickaël me faisait des remarques ou autres, tant que c'est positif, ça va. Dès que c'est négatif, je le prenais personnellement. Et du coup, je lui faisais savoir. Et puis, je me permettais certaines choses qu'aucun athlète ne se permettait avec son entraîneur.
Et donc, toi, tu étais obligé de la recadrer.
En fait, moi, c'est très, très rare. En tout cas, à l'entraînement, c'est très, très rare que je dise des choses négatives. Je suis plutôt axé sur le positif et sur l'amélioration de quelque chose.
Okay.
Et Maëlys a du potentiel. Ça, c'est une réalité. Et je ne voulais surtout pas qu'elle gâche justement son potentiel à cause de notre relation et qu'elle se permette justement de se relâcher, peut-être parce qu'on a eu une petite accroche avant ou peut-être parce qu'on n'est pas d'accord sur certaines choses. Et je voulais vraiment qu'il y ait un terrain neutre, qui est le terrain de l'entraînement, et se dire, peu importe ce qu'il arrive, ça, c'est notre terrain et il faut que toi comme moi, on puisse faire la part des choses. Mais c'était pas si simple que ça.
Racontez-moi une anecdote au moins d'une fois où, je sais pas, vous êtes engueulé avant, vous arriviez pas. Il y a eu un moment dont vous pouvez me parler.
Ouais, je pense qu'on peut parler de de la compétition.
Ah oui, oh là là. c'est un grand moment,
c'est gros.
Donc ça, c'est l'une de tes premières compétitions.
Ouais, c'était l'une de mes premières compétitions estivales. Et oh mon Dieu, je sais plus trop ce qui s'est passé.
Oh, moi, je sais très bien.
En tout cas, j'étais très stressée.
Ouais.
Et puis je l'ai fait comprendre à Mickaël et puis au final j'ai pas voulu courir.
D'accord, donc tu fais pas la compète.
Voilà, donc il y a mon père qui s'est déplacé pour venir me voir, il y a Mickaël qui se déplace pour m'assister à la compétition.
T'es pas bien, tu peux pas le faire.
Et ouais, j'arrive pas du tout à gérer, je suis stressée. Vu que Mickaël il est en mode entraîneur, du coup il est un petit peu rentre dedans. Et sur le moment je le prends pas du tout bien et je refuse de courir et je rentre chez moi.
Ouais, exact. Ça, c'est véridique. Et en fait, moi, je l'ai vraiment pris et je ne l'ai pas regardé en tant que chéri, et je l'ai regardé vraiment en tant qu'athlète. Et je lui dis, écoute, tu sais, on va s'arrêter là, tout simplement, parce que... Parce que on ne m'a jamais fait ça, je comprends pas cette réaction. Et après, bien sûr, bien évidemment, avec du recul, je peux comprendre que la gestion des sentiments, plus la gestion de la compétition, plus le fait de gérer un environnement, c'est-à-dire les parents ne sont pas au courant. Il faut dire aussi que les parents n'étaient pas au courant. Ouais. Les athlètes ne sont pas au courant.
Oui, ça fait beaucoup de choses.
Et donc, je pense qu'elle avait vraiment du mal à gérer son stress. Et je le répète, Maëlys ne vient pas du tout du monde du sport. Moi, je viens du monde du sport. Entre guillemets, je viens du monde du sport, c'est beaucoup dire, mais je suis plus habitué au monde du sport. Donc, j'ai une capacité, je pense, à gérer la pression que Maëlys n'a pas. Et c'est vrai que ce jour-là, ça aurait pu finir vraiment très, très mal.
Et donc,
vraiment.
Tu lui proposes d'arrêter de collaborer, mais pas de se séparer, on est d'accord?
Non, pas de se séparer. Non, pas de se séparer, mais par contre, ouais, remettre en question. Peut-être
mais ça crée un petit clash entre vous.
Voilà, exactement.
Ouais. Et du coup, je me remets quelques temps après, dans la peau de l'athlète.
Ouais.
Et il faut que je lui présente mes excuses parce que personne n'a jamais fait ça à Mickaël. Donc, et d'autant plus que c'est mon chéri, donc j'ai toi d'autant plus de respect.
Ouais. Bon.
Heureusement, ça s'est amélioré.
J'aimerais qu'on parle de la demande en mariage du coup, parce que là vous pendant 2 ans vous cachez cette relation même aux parents, à la famille, etc. Parlez-moi de la demande, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête, Mickaël? Est-ce que vous en aviez discuté aussi avant? Ça devient sérieux? À quel moment tu dis il faut que je fasse cette demande parce que sinon on va rester comme ça caché quoi?
l'une des premières compétitions de Maëlys et maintenant en fait j'ai changé de club.
D'accord.
Et donc autre groupe d'entraînement, donc Maëlys m'a suivi ainsi qu'un autre athlète, surtout que la distance était très très longue, donc changement complet. Et pareil, donc ces athlètes ne sont pas au courant, ni la
dirigeante,
ni la dirigeante. Ni... Et moi, ce que je me dis, c'est que je ne suis pas quelqu'un qui me cache. Et Maëlys ne mérite pas que l'on se cache aussi.
Ouais,
et Donc là, alors en fait, on fait les choses à l'envers, elle comme moi. C'est-à-dire qu'on dit, eh ben écoute, on va se faire une demande. Et le premier qui l'a fait...
C'est génial.
Voilà, le premier qui l'a fait, entre guillemets, il a gagné. Voilà, c'était ça.
Très bien.
Donc on a fait les choses à l'envers. Donc on savait qu'il y a l'un de nous qui allait faire la demande, mais on ne savait pas qui
pas
c'était.
Pas quand, il fallait l'organiser.
Pas quand, ouais. On s'est donné, entre guillemets, une deadline. On se dit, voilà, entre là et là.
Ah oui, vous êtes très pro, quoi. Donc.
Voilà, c'est ça. On s'est donné une deadline.
Très
et
bien.
On s'est dit, bon, ben, c'est parti. Donc, des fois, je m'amusais, je m'arrêtais dans la rue, je fais, ah, j'ai un truc à te dire et tout.
D'accord, donc en plus, vous vous charriez un petit peu à ce moment-là.
On se charriait pas mal.
Et alors, qui lance le truc en premier?
Eh ben, c'est moi.
C'est quand même moi.
Et donc, je le fais le jour d'une compétition.
Ah. Tu la prends en traître, quoi, comme ça.
Ouais. Je le fais le jour d'une compétition. Donc, je prends le micro. Je prends le micro. Dans un premier temps, j'interviewe des gens. Mm-hmm. Des athlètes, des parents. Voilà, je fais comme si je m'amusais parce que les gens savent quand même que j'aime bien rigoler. Mm-hmm. Et que bon, pareil, je suis pas excentrique, mais bon, j'aime bien, voilà, j'aime bien rigoler, j'aime bien parler avec les gens. Et puis, je vais dans la salle d'échauffement. Et donc là, pareil, hein, j'interviewe quelques athlètes. Et puis, je vais voir Maëlys.
Ouais.
Et puis, je commence pareil à l'interviewer, comme tout le monde. Et jusqu'au moment où je lui dis, il paraît que tu es très littéraire.
Voilà. Et à ce moment-là, donc, je me dis, tiens, c'est bizarre, là, ça parle plus de sport. Je me dis, bon, il va faire une blague parce que c'est un blagueur. Je me dis, bon. Je vais garder le sourire, même si ça me dérange d'être comme ça, tout le monde qui me regarde en train de parler dans un micro.
Parce qu'à ce moment-là, il y a tout le monde qui est autour, qui est un peu qui est en train en observateur.
Oui, mais...
Les gens s'échauffent en fait. D'accord. On est dans une salle d'échauffement, les gens s'échauffent pour leur compète.
Voilà, il faut dire que je dérange tout le monde.
Voilà, okay. C'est exactement ça. Et donc, il me dit cette phrase-là, je dis oui, et j'attends la blague, comme ça. Et en fait, il commence à parler d'amour. Je ne sais plus ce que tu dis exactement.
Voilà. Donc en fait, je commence à sortir une feuille.
Mm-hmm. Ah oui, ouais.
Donc, en fait, j'avais une longue doudoune bleue pour pas qu'elle voie que j'étais en costume, cravate.
Ah oui.
Et puis, je commence à sortir une feuille. Et puis là, je commence à, en fait, lui écrire, en fait, lui déclarer ma flamme avec donc un poème.
Devant tout le monde.
Devant tout le monde. Quand je dis
courage,
tout le monde.
Courage ultime, là.
devant, donc, les gens qui me connaissent, peut-être un petit peu moins, mais en tout cas, tous les gens du monde de l'athlétisme qui étaient là. Et je déclare ma flamme.
Et tu lui demandes d'épouser à la fin.
Et
exactement.
Je lui demande si elle veut devenir ma femme.
Et j'accepte.
Et voilà. T'acceptes comme ça. Et alors, mais attendez, c'est quand même un truc assez hallucinant parce que vous avez tout ce monde autour qui, en plus, découvre.
Ouais.
Tout le monde découvre l'histoire à ce moment-là.
C'est ça,
exactement ça.
Mais vous deviez être... Enfin, les gens devaient être complètement interloqués et heureux, je peux imaginer, mais quand même...
Ouais, bah, y a des gens qui criaient.
La réaction,
ça
peut être dingue.
Ouais. Surtout les athlètes, du coup, de notre groupe d'entraînement, qui, ils se doutaient. Il y a quelques athlètes qui m'avaient déjà posé des petites questions, qui avaient essayé de savoir et tout ça. J'avais dit, mais non, c'est parce qu'on... J'ai commencé l'athlète avec lui, c'est pour ça, nanana. Et au final, oui, donc tout le monde se rend compte qu'on est ensemble et les gens sont heureux et contents.
Et toi, t'hésites pas une seconde, même sur le coup, avec l'émotion, la compétition, tout le monde, c'est oui tout de suite.
Ouais, mais c'est surtout le truc qui m'a le plus choquée, c'est surtout que du coup, l'athlétisme, c'est sa vie. Et je me suis dit, mais pourquoi il fait ça? Il est fou, c'est son travail, c'est plus important, quoi. C'est ce que je me suis dit, ouais.
Bah donc c'est une belle preuve d'amour qu'il l'ait fait en plus dans le cadre d'une compétition d'athlétisme.
Ouais.
Et donc là vous êtes fiancés.
Oui.
Donc vous avez commencé à diffuser maintenant l'information un peu partout.
Bah, ouais.
Moi j'aimerais qu'on parle un peu de la rencontre avec les parents et comment est-ce que vous passez de vous êtes entraîneur et athlète à on est en train de se fiancer et on va se marier dans quelques temps, quoi.
Ah oui, mais du coup je pense qu'on a oublié de dire qu'entre temps ça faisait un an que mes parents te connaissaient.
Oui.
En tant qu'entraîneur ou...
En tant que chérie.
D'accord, donc ils savaient quand même.
Voilà,
d'accord.
Ils savaient, mais ils ne savaient pas pour la demande en mariage.
D'accord.
C'était leur surprise, mais du coup, la rencontre avec les parents...
Ça avait déjà été faite, ok.
Ouais, et on la raconte?
Ouais.
Donc, ouais.
Il y a des choses à dire.
Bon, ouais. Bah, tant mieux.
Donc, je sais plus quand est-ce que ça s'est passé exactement. Peut-être quelques mois après qu'on soit mis ensemble.
Non, je pense que c'était beaucoup plus tard.
T'as oublié la fois où tu es venue à la maison pour m'aider avec des insectes?
Ah oui.
Donc, alors, racontez-moi tout ça.
Ça commence par je suis toute seule chez moi et puis j'ai besoin d'aide. Donc, qui est-ce que j'appelle? Michaël. Mm-hmm. Je pensais que mes parents étaient partis, mais en fait, non. Donc, Michaël est à la maison. Il y a mes parents, ma mère qui arrive et qui tombe comme ça, nez à nez avec l'entraîneur. Donc, je pense que dans sa tête, elle se dit, bah, qu'est-ce que l'entraîneur fait là?
D'accord.
Et j'avais dit à mes parents que j'étais avec quelqu'un, ils ne savaient pas qui c'était.
D'accord.
Donc, j'avais menti.
Et donc, ils ont découvert à ce moment-là.
Tout à fait. Très voilà.
Bien. Bon, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de souci particulier.
Bah, bon. En fait, non. C'est, en fait,
coussi,
non, en fait, en fait, c'est pas qu'il y a eu des soucis. C'est qu'on était obligé de cacher la relation, puisque pareil, comme je disais tout à l'heure, au niveau même de l'éthique, pour
bien
moi,
sûr.
je voulais pas du tout. Alors déjà, je voulais pas du tout avoir de problème,
ouais.
Même si, je veux dire, même si elle est majeure, hein, mais je voulais pas avoir de problème, que les parents aillent se plaindre au sein du club et dire mais attendez, qu'est-ce que c'est que ces entraîneurs? alors j'inscris ma fille et puis d'un coup, elle se retrouve fiancée, mariée. Et donc ça, c'était la première chose. Et puis, donc la deuxième chose, c'est qu'on on devait justement garder la relation. Déjà, on ne savait pas si c'était sérieux ou pas,
oui.
Même si on le savait. Mais on attendait quand même un certain
petit peu,
temps,
ouais,
pour s'armer et puis après aller voir les parents. Mais entre-temps, y a les parents de Maëlys... Ils sont venus me rendre une petite visite dans ma rue pour
D'accord,
savoir
oui.
qui j'étais. Donc, en fait, ils ont cherché oui, qui oui. était...
Ma mère se doutait que j'étais avec mon entraîneur. Donc, elle avait fait ses recherches sur Internet et tout ça. Et puis, elle est allée dans la rue demander, mais
elle a
Michaël.
Voilà. Interrogé
C'est
tous les commerçants
C'est
de ma rue.
C'est très, très drôle.
Elle a interrogé
Et elle a fini par te trouver.
Eh ben non. Non, parce qu'il y a certains commerçants qui n'ont pas voulu dire où j'habitais. Et puis, s'il y a un moment, quand même, je crois qu'ils ont réussi à sonner à ma porte, non ?
Oui, oui,
ouais.
oui.
Mais en fait, on était en train de dormir.
D'accord.
On ne dort jamais. Hein. Mais là, je crois que ce
voilà.
jour-là, on était en train de dormir en plein après-midi et puis on n'avait rien entendu. Mais Alice avait, je crois, une vingtaine, trentaine d'appels.
Ouais.
Ah ouais.
Ouais, ouais. Non, donc c'était impressionnant.
Un petit peu.
Ouais, ouais, c'était impressionnant.
Bon, voilà, ça c'était plutôt les rencontres conventionnelles parce qu'après, je pense qu'au bout d'un moment, je me souviens plus trop, mais je me suis dit, bon, il faut que
tu fasses une représentation.
Réellement.
Quoi. Ouais.
Voilà, donc je l'ai invité à la maison et puis je pense que là, mes parents, ils étaient tellement heureux.
Oui.
Je pense que tout ce qu'ils voulaient, c'était le voir là, comme ça. Le fait que je leur cache,
je comprends.
C'est ça qu'il est.
Ouais, et puis surtout, le fait qu'on passait pas mal de temps ensemble,
ouais.
On faisait pas mal de choses.
Ouais,
on partait tôt le matin, on rentrait tard le soir. Ouais. Donc, je pense aussi, ça qui fait que tes parents aussi voulaient...
savoir qui tu étais.
Ouais.
Voilà. Et après, tout s'est très bien passé.
Bon. Une question que j'aime bien poser, c'est est-ce qu'il y a eu quand même, malgré ces deux années... j'ai l'impression pleine d'amour. Est-ce qu'il y a eu quand même des moments un petit peu plus difficiles dans votre relation dont vous pourriez me parler, soit des moments où vous arriviez moins à communiquer, enfin des moments où vraiment vous vous rappelez, vous vous êtes dit c'était pas simple, que vous m'expliquiez un peu ce qui s'est passé et puis aussi comment vous en êtes sorti.
Donc du coup ça faisait un peu plus d'un an qu'on était ensemble et je crois qu'il y avait un petit moment où ça allait pas trop bien, que ce soit à l'entraînement. Du coup, ça faisait des tensions après dans la vie privée. Et il y a un moment où on avait vraiment du mal à communiquer. Un truc que je fais bien avec Michaël, c'est l'apaiser quand ça va pas. J'arrive à trouver les bons mots. Mm-hmm. Et il y a un moment où j'avais plus trop la patience, toi non plus. Et du coup, c'était plutôt compliqué, mm-hmm. que ce soit à l'entraînement et du coup dans la vie privée. Et ce qui nous a vraiment aidés, c'était du coup de faire un road trip en Allemagne où, vu que moi, j'avais pas mal de problèmes de communication, ça m'a obligée à communiquer clairement avec Michaël et aussi à agir selon ce que je disais.
D'accord.
Voilà, je crois que c'est là qu'on a vraiment...
Vous êtes retrouvés un peu à ce moment-là et vous avez été forcés, entre guillemets, de communiquer.
Y a énormément d'amour entre nous. On s'entend vraiment très bien. Mais c'est vrai que par moment... comme dans tout. Hein,
oui, bien sûr. Les engueulades.
Il y a un petit souci de communication. Mais c'est vrai que le road trip nous a pas mal aidé, puisque en fait, on est obligé de communiquer. Mmh. Et en plus, on était à vélo. Donc, on a traversé une petite partie de l'Allemagne. Et c'est pas du tout un domaine que l'on connaît, pas du tout un des endroits que l'on connaît. Mmh. Donc, on est obligé de communiquer.
Même de collaborer. Quoi.
Voilà, mmh. Obligé. Et donc, ça nous a énormément rapprochés, je pense, oui.
Ouais.
Mais moi, je ne prendrais pas cet exemple-là. Mais...
Ah bon ? Alors, vas-y, Mickaël. Dis-moi. Non,
ça, c'est le tien, tu vois, c'est ton ressenti.
Oui.
Moi, c'est plutôt il y a quelques semaines.
Ah oui.
Moi, c'est plutôt il y a quelques semaines, puisque.
Oui, effectivement.
En fait, j'ai appris que j'allais être licencié économiquement.
D'accord.
Et. Je pense que là, peut-être pour la première fois de ma vie, j'ai eu du mal un petit peu à gérer. Ouais. Alors habituellement, je suis pas nonchalant, mais je prends vraiment les choses, je les prends pas pour moi, ou j'essaye vraiment de toujours regarder le positif.
Ouais, ce que tu disais.
Voilà,
ouais.
Toujours regarder le positif. Et là, en fait, c'est comme si c'était un petit peu bloqué, et je pense que je me suis pas senti soutenu, en tout cas pas assez soutenu, et alors que peut-être que avant de me sentir soutenu, je pense que c'est peut-être moi qui n'allais pas bien, et peut-être que j'avais besoin qu'on plaise dans ça, ou je sais pas, mais
oui, en tout cas quand on va mal personnellement, le couple en prend toujours un coup.
Voilà, exactement. Et puis surtout là, je voulais surtout aussi que ma future femme ait quand même une bonne image de moi. Et j'ai toujours eu des projets. Et puis, depuis mon entrée à l'INSEP, ça s'était un petit peu arrêté parce que j'avais pas mal de travail, pas mal de choses à faire. Mmh. Je me suis dit, j'ai rien fait. Je vais perdre certaines choses. Mmh. Et comment je vais faire ? Voilà, surtout comment je vais faire. On a des projets, on doit partir à l'étranger, on doit faire pas mal de choses. Donc là, situation assez compliquée. Mmh. Bon, maintenant ça va un peu mieux, voire beaucoup mieux.
Le rôle
même.
Du conjoint, dans ce cas, il est crucial, mais en même temps, il n'est pas facile parce que.
Et justement, je ne savais pas du tout quoi faire, en fait. Ouais. Je suis plutôt restée silencieuse, à le laisser un peu de côté, alors qu'en fait, il avait besoin de tout le contraire. Mmh. Voilà.
Et comment vous en êtes rendu compte ? Enfin, au bout d'un moment, tu as changé ton comportement peut-être, Maëlys ?
Oui, j'ai essayé de lui demander si ça allait un petit peu mieux, de lui parler un peu plus et surtout de lui donner mon avis et de lui dire des choses plutôt que juste de l'écouter.
Mm. Ouais, et puis surtout, c'était, je pense, dans les agissements. C'était surtout ça, dans la concrétisation. Je pense que c'est surtout ça qui a fait que...
Qu'est-ce que tu veux dire ?
C'est-à-dire que maintenant, elle voulait m'aider, mais il y avait en fait...
Il ne se passait rien.
Voilà, il ne se passait rien, c'est ça.
On peut le dire.
C'est ça, c'est la réalité. En fait, c'était la prise d'initiative. Je pense qu'elle avait peut-être un peu peur. Et c'est la prise d'initiative qui a véritablement fait que ça change. Et après, moi aussi, je me suis pris aussi un minimum en main pour que aussi ça change, parce que ça pouvait pas durer comme ça. Mmh. Alors même s'il y a toujours des questionnements qui se posent, ce qui est totalement normal, mais après il faut, moi je suis vraiment dans l'acceptation et plutôt dans le renouvellement, voire même des fois dans le paradoxal, parce que je pense qu'il y a que comme ça qu'on peut justement évoluer et se renouveler. Donc j'ai l'impression que ça va mieux.
Oui, j'ai l'impression aussi en vous voyant. Super. Une autre question que j'aime bien poser, c'est en quoi est-ce que l'autre et cette relation vous a changé ? Est-ce que par exemple, Maëlys, tu peux me dire, alors au-delà du sport peut-être, mais qu'est-ce que Mickaël a fait que tu es maintenant une personne un petit peu différente ?
Waouh ! Ça, c'est une vraie question.
Ouais, c'est pas facile.
Et je dirais que j'étais déjà ouverte sur le monde, mais plutôt à mon petit niveau de petite étudiante avec ses parents. Et Mickaël, c'est vraiment une grande ouverture sur tout, même sur des choses sur lesquelles j'ai beaucoup de préjugés. Le fait de discuter avec lui, de faire des choses, de sortir... voir des expositions, lire des livres ou autre, ça permet vraiment de m'ouvrir sur le monde, d'être un peu plus tolérante et de voir les choses d'un autre œil. Pas seulement de selon mon éducation dans ce paradigme, quoi. Voilà.
Moi, je veux des exemples.
Pardon ?
Moi, je veux des exemples.
Bah moi aussi, alors.
Par exemple, le fait d'aller en Côte d'Ivoire, voilà. Je pense que c'est un très bel exemple. J'avais, selon mon éducation, on a pas mal de petits préjugés parce qu'on connaît pas. Mm-hmm. Et en fait, j'ai découvert un beau continent et un très beau pays et de belles personnes. Voilà. Ou même sur la musique, par exemple, moi, le hip-hop,
ouais,
quand on était juste athlète, entraîneur, une fois, j'avais dit, mais c'est quoi cette musique de voyou ou quelque chose comme ça. Et j'avais bien aimé parce que Michael avait dit, mais moi, je viens du ghetto comme ça.
Tu t'étais dit le bad boy.
Voilà, c'est ce que je m'étais dit. Et puis aujourd'hui, il m'emmène dans des concerts de rap, on écoute ça ensemble. Voilà, c'est vraiment la découverte.
Génial. Pour toi, Michael ?
Moi, je dois dire que... avant de rencontrer Maëlys, je ne savais pas en fait qu'elle existait. Vraiment. C'est-à-dire, pour moi, j'ai rencontré une déesse. Non, vraiment. C'est-à-dire que non seulement elle a tout pour elle, elle est magnifique, elle est intelligente, elle est sportive, elle est cultivée, elle a énormément d'atouts pour elle, mais en plus, je pense qu'on est vraiment complémentaires. Moi, je suis très on y va,
Fonceur.
On s'active, on sort, on fait plein de choses. Hein. Et Maëlys, c'est plus dans l'apaisement. Alors oui, on va y aller tranquillement. Mais on est vraiment,
vous complétez,
on est vraiment complémentaires. Mmh. Et en fait, mon exigence aussi, elle était sur les personnes sur les rencontres aussi que je faisais. Et je me suis dit, mais non, c'est pas possible. J'ai un souci. Je rencontrerai. Et j'avais accepté.
Tu ne rencontrerais personne.
J'avais accepté. Ouais. Alors, peut-être d'avoir des rencontres, mais j'avais accepté de ne plus avoir d'enfants. Donc, de ne pas avoir d'enfants. Ouais. Et je me suis dit, c'est comme ça. C'est la vie. Voilà, c'est la vie.
Donc, elle t'a juste fait croire à l'amour, quoi, finalement.
Elle m'a juste fait croire qu'elle existait. Et que,
c'est incroyable.
Et que que c'était pas une utopie ou que c'était pas mon exigence, mais c'était juste de la patience à avoir.
Patience. Ouais.
Et puis voilà. Ouais.
Une belle déclaration, merci beaucoup. La dernière question que j'aime bien poser, c'est si vous reveniez 10 ans, 5 ans, enfin un petit moment en arrière, et vous pouviez donner un conseil à nos auditeurs ou surtout à vous-même à l'époque sur ce qui fait pour vous le secret du bonheur à deux, qu'est-ce que ça serait?
T'as plus d'expérience, je te
laisse. Oh, mauvaise, ça y est, c'est parti. Alors voilà, dès qu'elle peut pas répondre, hein, toi t'as plus d'expérience.
Elle veut un peu de temps pour réfléchir.
Alors, c'est-à-dire, on revient 10 ans en arrière.
Un conseil que tu pourrais donner à toi-même à l'époque justement où tu croyais plus à l'amour vraiment ou sur le secret pour toi du bonheur à deux.
Ah, je dirais la patience. Je pense honnêtement qu'il faut vraiment être. Le secret, c'est vraiment la patience.
Même dans les coups durs, même dans les moments où on s'énerve.
Ouais, même dans les coups durs. Mais je pense que la patience dans tout. Pas besoin de se presser, pas besoin aussi de s'exciter, pas besoin de pas besoin de prendre des fois des extrêmes, parce que je pense que quand on est plus jeune et peut-être qu'on est un petit peu moins mature. C'est vraiment la patience, la communication aussi, essentielle. Surtout vivre des choses. Voilà. Il n'y a que comme ça qu'on peut découvrir l'autre. C'est vraiment vivre des choses ensemble, mais pas juste aller dans des concerts, marcher ensemble. Non, mais c'est vraiment... Je pense que l'expérience du road trip, c'est une expérience vraiment que je conseille à tout le monde.
Ouais.
Parce que vous êtes deux, vous sortez complètement de votre zone de confort.
Bien sûr.
Vous êtes au milieu de nulle part et vous êtes obligé de communiquer.
Et de trouver des solutions.
Et de trouver des solutions.
Oui, c'est un bon exemple en fait pour commencer, même avant de se marier, c'est un projet.
Totalement.
À deux, quoi.
Justement, c'est ce qu'on a prévu, en tout cas pour nos. En fait,
voyage de noces.
Alors
ça
pour notre voyage de noces, alors ça, je sais pas si c'est original ou pas, mais on a décidé justement en fait de partir un petit peu à l'aventure. Donc cette fois-ci, on a dit que ce serait à pied, c'est ça?
Non, c'était une proposition.
Ah, c'était une proposition, d'accord, excuse-moi.
Oui, sans trop planifier.
Voilà,
et puis,
sans trop planifier. Génial. En fait, on partirait peut-être pendant un ou deux mois, comme ça. On planifie rien du tout. Et on fait du stop, on va dormir chez les gens ou peu importe. Et puis après, on partira quand même une semaine.
Dans un endroit un
voilà,
peu plus,
dans un endroit,
un peu plus relax.
Voilà, un peu plus, entre guillemets, un peu plus relax. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas trop hôtel, on n'est pas trop choses comme ça, mais... Peut-être que là, on fera un effort et puis peut-être qu'on ne fera rien. Je ne sais pas si ça nous définit bien, mais peut-être qu'on pourra faire ça. Voilà.
Et pour toi, Maëlys, si tu pouvais donner un conseil.
Oui, alors moi, je dirais qu'il faut vraiment se faire confiance à soi-même. C'est-à-dire que, je prends mon exemple, avant de rencontrer Michael, j'ai ma personnalité, mes centres d'intérêt... et que les autres n'ont pas forcément, donc on essaye de cacher un petit peu ça pour essayer de faire ressortir autre chose. Et je pense que je suis tombée sur Michael et ça a marché parce que du coup je n'ai pas essayé de montrer autre chose que ce que j'étais. Voilà.
Oui, et parfois on croit la musique classique, le sport, enfin tout ce qui,
et en fait on croit qu'on rencontrera personne avec qui ça pourrait matcher, mais en fait si, ces gens-là existent vraiment. Voilà.
Ouais, c'est un bel exemple. En tout cas pour te reprendre, ce que disait ma future femme. je me réfrénais pas mal sur, par exemple, la musique classique que j'adore. J'adore les opéras, j'adore les ballets. Et pareil, ça fait partie aussi de mon ADN. Mais j'adore aussi le théâtre. Mais pour les gens, on a une image parce que peut-être qu'on vient... qu'on n'a pas grandi dans le même milieu social. Donc... les gens, ils ont une certaine image et donc j'ai jamais essayé d'édulcorer, mais c'est vrai que des fois je me réfrénais sur certaines choses. Je lis beaucoup, je lis énormément, des fois 3-4 livres en même temps. Et c'est vrai que des fois dans les rencontres, il y a des personnes que l'on rencontre et puis ces personnes des fois essayent de dire moi aussi je vais au théâtre, moi aussi je lis des livres, alors que c'est complètement faux. Et donc, tout le temps obligé un petit peu de se réfréner,
oui,
entre
de
guillemets,
naturel,
voilà,
quoi.
Exactement. Et toujours, entre guillemets, de se mettre à niveau. Comme qu'on dit, moi, je fais pas mal de sport. Ah oui, mais moi aussi, je fais du sport. Et justement, ce qui est très bien avec Maëlys, c'est qu'il n'y a pas besoin de se cacher, pas besoin d'édulcorer. C'est qu'on est vraiment comme on est. On accepte l'autre tel qu'il est. Donc même si bien sûr on a des défauts, on s'accepte vraiment tel qu'on est et on peut vraiment exploiter tout notre potentiel culturel et passionnel.
Voilà, formidable. Le coach a parlé.
Voilà, c'est
enfin,
ça.
L'entraîneur, pardon. Parfait. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux pour ce moment de partage et puis je vous dis à très bientôt.
Merci beaucoup, c'était génial.
Bonjour à tous et quelques derniers petits détails avant de vous quitter. Alors d'abord, vous pourrez retrouver cet épisode et les liens vers les contacts de nos invités sur le site de Gemio, www.gemio.com, rubrique podcast. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire sur Instagram ou Twitter si leur histoire vous a touché. Si vous souhaitez nous suggérer de nouveaux invités ou peut-être même nous proposer votre histoire d'amour, eh bien envoyez-nous tout simplement un email avec un peu de détails sur votre relation à l'adresse email suivante partenariat@gemio.com. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram au pseudonyme Gemio, G-E-2-M-Y-E-C-O, pour être sûr de ne louper aucun épisode et découvrir l'envers du décor de nos podcasts. Enfin, si vous voulez nous donner un peu d'amour à votre tour et que le podcast vous a plu, eh bien n'hésitez pas à simplement nous mettre un petit mot doux ou même une note 5 étoiles sur l'application iTunes. Ça nous aide énormément à répandre tout cet amour autour de nous. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Chalalove.